Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sûr Radio Pleine Lune 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Notre indicateur a un petit peu changé, mais ce n'est que temporaire. Nous reviendrons bientôt à notre indicateur favori. C'est là donc la pleine lune. Dans quelques instants, nos nouvelles. Et puis, Marjolaine qui vous attend avec ses grands coups de cœur. À tout de suite. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, en femme, Radio Zone, nos nouvelles. Pékin, bien sûr, à l'affiche. La conférence mondiale des femmes vient de se terminer. C'est la plus grande conférence de l'ONU qui n'ait jamais existé, puisque plus de 45 000 femmes se sont déplacées dans des conditions souvent très difficiles pour assister à cette conférence. La plateforme donc vient d'être terminée et on peut parler d'avancées dans cette conférence mondiale des femmes, même si souvent on les a considérées comme timides, puisqu'il y a eu pas mal d'affrontements à l'intérieur de la conférence officielle, comme d'ailleurs dans la conférence des organisations non gouvernementales, affrontements qui ont abouti à un dénominateur le plus minuscule, dénominateur commun entre les différents États et entre les différentes tendances que cette année, on pourrait décrire comme d'un côté les États démocratiques et de l'autre des États intégristes qui s'inspirent souvent de la religion. Cette déclaration de Pékin a donc finalement été adoptée le vendredi 15 septembre par les 181 délégations présentes à cette conférence qui fut la plus large jamais organisée par les Nations Unies, puisque 45 000 participantes sont venues pour réaffirmer, je cite, que les droits des femmes sont partie intégrante et indivisible de tous les droits humains et des libertés fondamentales dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions internationales. À la veille de l'ouverture de la conférence sur les femmes, certains doutaient même qu'un tel texte puisse être adopté, puisque à l'époque, la plateforme provisoire était remplie de guillemets. Les conflits qui ont émaillé les deux semaines de discussion se sont cristallisés autour de la sexualité. C'est la première fois que cette notion est évoquée au sein des Nations Unies. Shocking. Elle sent le soufre pour un certain nombre d'États religieux. Les compromis élaborés, pas de mention des droits sexuels dans la déclaration finale, mais un paragraphe dans la plateforme d'action, a été obtenu de haute lutte. Plus d'une quarantaine d'États, catholiques et musulmans, ont toutefois émis des réserves sur les passages reconnaissant pour la première fois aux femmes le droit de contrôler et de décider librement de leur sexualité et de leur santé sexuelle sans coercition, discrimination et violence, et cela dans le cadre de leur consentement mutuel. Les réserves de ces pays portent également sur un article demandant au gouvernement de ne pas pénaliser les femmes ayant subi des avortements illégaux. À la tête des pays qui émettent ces réserves se trouvent le Vatican et les États islamiques intégristes comme l'Iran ou l'Arabie saoudite, unis dans une forme de sainte alliance un peu spéciale. À Pékin, les délégations du Saint-Siège et celles de l'Iran, du Soudan et de Malte ont demandé que les particularités culturelles soient respectées. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne parle de particularités culturelles que quand il s'agit de droits des femmes et de droits des hommes. Beaucoup d'États africains ont été, durant cette conférence mondiale sur les femmes, les principaux alliés des États libéraux démocratiques. Ils se sont en effet mobilisés pour que le rôle de la femme dans l'économie soit davantage reconnu et que les différentes formes de famille ne soient plus condamnées. À propos de leur rôle économique, précisons que les États-Unis, tout à coup, se sont retrouvés du côté des États réactionnaires, refusant d'admettre le poids de la dette sur les femmes principalement. Quelles que soient les réserves émises sur le texte final, la mention des droits liés à la sexualité à l'occasion d'une conférence internationale constitue en soi une avancée. La maîtrise de son corps est l'un des éléments essentiels de la maîtrise de sa propre vie. Les résistances qui sont apparues à Pékin à ce sujet montrent que c'est aussi l'enjeu des années à venir. Parce que pour la première fois dans une conférence, on a évoqué ces sujets tabous, sexualité, violence, droits des filles, la 4e conférence mondiale des femmes est qualifiée d'historique. La déclaration finale affirme « La pleine application des droits fondamentaux des femmes et des petites filles au nom de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales ». Elle reconnaît également que la prise de décision et l'accès au pouvoir des femmes sont fondamentaux pour la réalisation de l'égalité, du développement et de la paix. Et fait état de l'accès aux ressources, du partage égal de la responsabilité familiale entre les femmes et les hommes. Elle réaffirme le droit des femmes à maîtriser tous les aspects de leur santé et évoque également l'accès au crédit, la prévention et l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des petites filles. Quant à la plateforme d'action, c'est la première fois qu'un texte de portée internationale évoque le droit de la femme à la sexualité en dehors de la reproduction. Tout en affirmant que l'avortement ne devrait en aucun cas être promu en tant que méthode de planification familiale, un paragraphe précise que les gouvernements devraient réviser des lois qui prévoient des sanctions contre les femmes en matière d'avortement illégal. Un autre compromis concerne l'héritage. La formule d'origine « un droit à l'héritage égal » est devenue « un droit égal à l'héritage » sous la pression des pays islamistes. Le succès consensuel de la conférence cache néanmoins un réel malaise. Que vaut un consensus lorsque le texte final n'engage pas vraiment les États ? Que vaut un texte lorsque sa portée est affaiblie par des réserves, des signataires touchant, par exemple, la dépénalisation de l'avortement ou le droit à l'héritage ou les droits en matière sexuelle ? La conférence de Pékin ne fait que confirmer le mouvement de retrait amorcé au nom de ce que certains opposés aux intégrismes ont nommé la diversalité. Un droit à la différence culturelle ou religieuse revendiqué à la fois par le Vatican et des pays arabes ainsi que quelques pays d'Afrique et par l'Amérique latine. Trop de tensions, il faut également rajouter des réserves émises par ces 40 à 50 États sur la plateforme d'action. Ce sont des pays musulmans comme l'Iran, le Soudan, le Koweït, la Libye, la Mauritanie, l'Indonésie, l'Oman, le Liban, la Tunisie, le Maroc et catholiques comme le Vatican, l'Équateur, Malte, Pérou, l'Argentine, le Costa Rica, le Venezuela, le Nicaragua, qui ont invoqué des raisons religieuses, éthiques pour leurs réserves. Nous l'avons dit, ces réserves portent sur la sexualité ainsi que sur les avortements. Et la question de l'héritage a été dénoncée par des pays musulmans, dont l'Égypte, qui donc refuse le droit égal des femmes à l'héritage. Les femmes sont venues en masse, plus de 30 000 au forum des ONG, 17 000 à la conférence. Elles sont sorties donc plus fortes puisqu'elles ont sorti le féminisme de son isolement. En dénonçant la féminisation de la pauvreté, elles n'ont pas tant parlé de leur avenir que de celui du monde. Au lendemain de la conférence, les voici encore davantage exposées aux premières lignes d'une nouvelle guerre politique, idéologique, culturelle, qui n'oppose pas tant les riches aux pauvres, le nord au sud, que les partisans de la démocratie au fondamentalisme sans frontières. Autre regret qui ont été signalé, c'est le fait que les négociations n'ont pas permis d'avancées fondamentales dans les domaines tels que le trafic des femmes et les différentes formes de prostitution qui ne sont plus considérées comme des violations aux droits humains. Les débats qui se sont tenus et cette avancée, elle a été due principalement aux féministes et aux associations non gouvernementales qui, depuis des années, ont participé aux réunions préparatoires, insufflant un peu de réalité à des débats qui paraissaient parfois très théoriques. C'est la première fois ainsi qu'on a pu voir la Banque mondiale, autrefois tenante de l'ajustement structurel comme panacée, décider de financer l'éducation des petites filles. Les parlementaires qui sont allés dans la capitale chinoise, telle la communiste Muguette Jacquin, reviennent gonflés à bloc, bien décidés à tenir un débat public post-Pékin. La pluralité des approches qui ont marqué les travaux de la conférence devrait, selon Pierre Sardou, ouvrir la voie à de nouvelles réflexions. Pékin a été l'occasion de montrer que les questions posées ne sont plus des affaires de bonnes femmes, ce sont fondamentalement des questions de société. La Suisse également est revenue avec un bilan très positif, la délégation officielle en tout cas. Pour Patricia Schulz, chef de la délégation suisse et responsable du bureau de l'égalité à Berne, la conférence a atteint le maximum que nous pouvions attendre d'un tel événement. Sur proposition de la Suisse, l'avortement forcé ainsi que la stérilisation de la femme sans son consentement sont mentionnés au chapitre violence de la plateforme d'action. Quant aux représentants des ONG suisses, elles sont plus mitigées. Elles critiquent la plateforme d'action qui n'affecte, selon elles, que de façon très discrète les modèles de développement politique comme économique. Quant à la Chine, qui était l'hôtesse de cette conférence, on peut dire qu'elle a raté l'occasion de redorer son image. Les autorités chinoises s'attendaient à ce que toutes ces femmes viennent faire du shopping et tenir des discussions polies autour d'une tasse de thé. Elles ont paniqué en réalisant le côté laboratoire à idées de ce type de conférence, explique un diplomate. D'où le refus d'accorder des visas à plusieurs représentantes d'organisations de défense des droits de l'homme, le déplacement du forum des ONG à plus de 50 km de la capitale, des fouilles, verrouillage des participantes, autant d'incidents qui témoignent de la nature du régime de Pékin. Autre petite anecdote, mais qui trahit bien la manière dont les Chinois, les responsables chinois s'imaginent les femmes, les délégués des ONG ont trouvé dans leur pochette d'accueil qui leur était distribuée un ovule mis au point par un laboratoire chinois servant à resserrer le vagin des femmes après un accouchement. Voilà qui avancera la cause des femmes. Cette conférence restera cependant marquée par l'éclat d'Hillary Clinton, la première dame des États-Unis, qui dénonça à la tribune de la session plénière les refus de délivrance des visas par la Chine et a abordé habilement le sujet tabou des droits de l'homme en parlant entre autres des assassinats des petites filles et des assassinats des fœtus féminins. Quant à la population chinoise, elle avait été bien protégée. Elle n'a pas pu s'approcher du site, par exemple, de la conférence des ONG. Finalement, le bâtiment où se tenait ce forum n'a été ouvert au public qu'après la conférence, car il va être transformé en musée payant, bien sûr, 12 francs l'entrée. En Afrique du Sud, une grève des infirmières marque la fin de l'état de grâce de Mandela. Mandela, nous t'avons sorti de prison, maintenant fais quelque chose pour nous. En s'adressant directement à leur président, les manifestantes en blouse blanche qui protestaient cette semaine devant les hôpitaux du Cap, de Johannesburg et de Pretoria semblent avoir brisé un tabou. Pour la première fois depuis qu'il a été élu président, Mandela a été pris à partie par ses électeurs. La vague est venue d'un noyau dur de 4000 infirmières des hôpitaux publics qui ont lancé une grève d'une semaine pour protester contre leurs conditions de travail. La grève des infirmières, comme l'affirme un député du Parti démocrate, est la première crise sociale de grande ampleur que doit subir Mandela. Elle marque la fin de son état de grâce. Cette grève est principalement due au mauvais salaire, puisque une infirmière gagne environ 1800 rand, ce qui correspond à 600 francs suisses, et la plupart du salaire part en frais de transport, frais d'écolage pour les enfants et loyer. Il est impossible de vivre avec un tel salaire, disent les infirmières. C'est pourquoi elles ont revendiqué 25% d'augmentation de salaire. Leur mouvement a été relativement très mal reporté dans la presse et cela l'a rendu très impopulaire. Il faut dire qu'elles ont été assez agressives puisqu'elles sont parvenues à paralyser une bonne partie des services hospitaliers de Johannesburg. Dans un hôpital, les patients ont dû changer eux-mêmes leurs pansements et s'occuper de bébés lancés à l'abandon. Elles ont même parfois fermé l'armoire à médicaments. Suppliées de retourner au travail, les infirmières ont été lâchées dès la première heure de leur mouvement par leur syndicat qui avait déjà négocié une augmentation symbolique de 5% de leur salaire. Il reste que l'agitation dans les couloirs des hôpitaux n'est que la surface de l'iceberg. Les frustrations sociales contenues pendant tant d'années sont libérées avec la chute de l'apartheid. Avant les infirmières, ce sont les chauffeurs de camions, puis les policiers, les instituteurs qui ont manifesté dans les rues. D'autre part... En France, la commune de Saint-Nazaire reconnaît officiellement les couples homosexuels. La mairie de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, vient d'annoncer qu'elle acceptera désormais de délivrer un certificat de concubinage aux couples homosexuels vivant ensemble depuis plus d'un an. Cette ville est la sixième en France après une telle initiative à l'appel du mouvement des citoyens de l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. Ce certificat, qui n'a pas de valeur juridique, permet tout de même aux couples homosexuels d'obtenir certains avantages, tels que la réduction dans les transports ou d'obtenir un bail de logement accordé aux personnes mariées. Certains élus de gauche veulent relancer la proposition de loi instaurant un contrat d'union civile qui ouvrirait à tous les couples non mariés les mêmes droits que ceux d'un couple marié sous le régime de la séparation des biens. Par ailleurs, un groupe d'assurance indemnise une lesbienne. Groupama Assurance a renoncé à faire appel du jugement du tribunal correctionnel de Belfort qui, en juillet, pour la première fois, avait reconnu l'existence d'un couple d'homosexuels en accordant à la dernière survivante des dommages et intérêts. Le groupe d'assurance avait tout d'abord indiqué qu'il ferait appel de cette décision. Le centre gay et lesbien avait dénoncé cette prise de position discriminatoire. Sous la pression, Groupama Assurance a renoncé à faire appel. Annie, 48 ans, percevra donc 732 000 francs de dommages et intérêts à la suite du décès de sa compagne, tuée par un automobiliste alors qu'elle roulait en bicyclette. Condamnation à mort dans les Émirats arabes. Sarah, jeune femme violée, est condamnée à mort dans les Émirats. Cette employée philippine de 16 ans avait tué son patron. Un tribunal islamique des Émirats arabes unis a condamné à mort samedi cette adolescente philippine pour le meurtre de son employeur, revenant sur son précédent verdict, annulé sans explication, qui reconnaissait que la jeune fille avait été violée par son patron. Le tribunal islamique a conclu que Sarah Balabangan, une employée de maison âgée de 16 ans, était coupable de meurtre prémédité de son patron, un ressortissant des Émirats. Dans ce nouveau jugement, le tribunal estime qu'il n'avait pas de preuve que la jeune fille avait été violée. Un juge a même affirmé qu'elle était encore vierge, bien que l'hymen était déchiré selon les médecins, ajoutant qu'il ignorait les mobiles du crime. Des milliers d'employés philippines et d'autres pays asiatiques quittent les pays arabes du Golfe chaque année en raison de mauvais traitements infligés par leurs employeurs qui souvent ne leur versent pas leur salaire, parfois les battent et en abusent sexuellement. La jeune fille avait poignardé en juillet 1994 son employeur. Son avocat avait plaidé la légitime défense. En juin dernier, le tribunal avait reconnu le viol et condamné l'employé de maison à 7 ans de prison. En Suisse, devant les prochaines élections, jamais les femmes n'ont été sollicitées et courtisées par leur parti. Sur environ 3000 candidatures, on dénombre 990 femmes, soit 34,9% de l'effectif. C'est un record pour les femmes. De toute manière, les femmes seront, même si elles sont toutes élues, nettement minoritaires dans l'hémicycle de la Chambre du peuple et dans les travées de la Chambre des cantons. En comparaison internationale, pourtant, elles ne sont pas tout à fait à la traîne. Toujours au niveau des élections, le Parti socialiste refuse à ces femmes le moindre droit de préséance. Pas de privilège pour les femmes, mais pas d'exclusion des femmes non plus. Le comité directeur du Parti socialiste a fixé les règles du jeu pour la succession d'Otto Stich au Conseil fédéral. Une grande partie de la discussion a porté sur la spectaculaire candidature de Greta Thaler. Bref, l'actuelle ambassadrice de Suisse auprès du Conseil de l'Europe et ancienne présidente du Conseil national n'aura aucun droit à une espèce de préséance. Pourquoi ce refus? Eh bien, parce que, d'après le Parti socialiste, avec une femme au Conseil fédéral, on est déjà arrivé à l'égalité femmes-hommes. Et puis, l'initiative en faveur des quotas n'a pas encore été acceptée. Alors, on ne voit pas pourquoi on devrait déjà s'y plier. Quant aux femmes bourgeoises, elles se sont réunies dans une fête un peu morose, fête électorale des femmes bourgeoises, n'a réuni que 300 personnes, très peu de remandes, à Zurich. Quelques conseillers fédéraux, comme Delamura, Ogier et Flavio Cotti, ont soutenu l'appel des candidates radicales UDC et PDC aux élections fédérales. Sous le slogan « Être femme, rester féminine », les femmes radicales démocrates chrétiennes et démocrates du centre n'entendaient pas présenter un programme commun. Opposées aux listes féminines, elles visaient surtout à soutenir leurs candidates aux élections fédérales d'octobre. « Nous ne faisons pas une politique féministe, mais de la politique en tant que femme », a déclaré la conseillère nationale Frenisch Peury, radicale zurichoise. C'était les nouvelles sur 93.8 MHz en femme Radio Zone, la pleine lune dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine.
santo stare, scrivi a questo, a sostenere.